l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul, au jour le jour. Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul, au jour le jour. La Corée du Sud est le premier pays asiatique qui donne le droit de vote aux étrangers. Depuis 2006, les étrangers âgés de plus de 18 ans qui ont obtenu le droit de résidence permanente il y a plus de 3 ans peuvent voter lors des élections locales. Pourtant, ils n'ont pas le droit de participer aux élections présidentielles ou législatives. Kim Yong-seok fait partie de ces électeurs étrangers. Cette femme de 58 ans d'origine chinoise habite au pays du matin clair depuis 20 ans. Sa fille s'est mariée avec un Sud-Coréen et s'est installée dans ce pays. Et Kim est venue avec elle pour habiter à Séoul. Pour elle, le 31 mai 2006 est un jour inoubliable, car elle a exercé son droit de vote dans ce pays pour la première fois. Depuis, elle a participé à 5 scrutins, et les élections locales qui auront lieu le 1er juin seront son 6e. Le nombre d'électeurs de la nationalité étrangère, qui était de 6 000 en 2006, est monté en flèche avec la multiplication des étrangers qui résident dans le pays. D'après les statistiques, en mars dernier, l'électorat étranger pour le scrutin du mois prochain s'élève au nombre de 126 000, ce qui constitue un nouveau record. En 2006, il n'était que 6 700. Puis, ce chiffre est passé de 13 000 en 2010 à 48 000 4 ans après. Et aux dernières élections, en 2018, leur nombre a franchi la barre des 100 000 pour la première fois. Le taux d'étrangers dans l'électorat sud-coréen est également en hausse, de 0,02% en 2006 à 0,12% en 2014, avant d'atteindre 0,25% 4 ans plus tard. Le nombre d'électeurs étrangers devrait continuer de monter, parce que de plus en plus de gens obtiennent le statut de résident permanent qui le permet de voter dans ce pays. En mars dernier, il a dépassé 170 000. Il s'agit d'une croissance de 5% par rapport à la même période l'année dernière, alors que le nombre d'étrangers en Corée du Sud a diminué de 2%. Dans ce contexte, les résidents étrangers ont tendance à se rendre compte de l'importance du vote. Lee Kyung-suk, une Chinoise qui est venue au pays du matin clair en 2003, est la présidente d'une fédération des femmes immigrées qui ont le droit de vote. Elle affirme qu'au sein des communautés d'immigrés, de plus en plus de gens pensent qu'il faut participer au scrutin pour exercer activement leurs droits. Selon elle, s'ils le font, ce n'est pas pour eux-mêmes, mais pour leurs enfants qui grandiront comme des Sud-Coréens et non pas comme des immigrés. Le mois dernier, le gouvernement a levé les règles de distanciation sociale et la société sud-coréenne est entrée dans l'ère de l'après-Covid-19. Ces deux dernières années, les écoliers, les collégiens, les lycéens et les étudiants ont dû suivre des cours en ligne. Certains indiquent que cette méthode éducative sans contact a fait obstacle au développement de la sociabilité des élèves. Kim est un instituteur d'une école primaire chargé d'une classe de CP. Ces jours-ci, il réfléchit de quelle manière il peut apprendre aux élèves à emprunter des objets à leurs camarades. Car, jusqu'à maintenant, en raison du risque de contagion au coronavirus, il leur disait de ne pas prêter leurs objets aux autres. Il s'inquiète du fait que les enfants ne puissent pas comprendre le sens du partage, même après la fin de la pandémie. Yang est aussi institutrice. Selon elle, les enfants ont du mal à comprendre les expressions non verbales. Il y a quelques jours, pendant un cours en ligne, elle a réprimandé un élève qui avait utilisé un langage vulgaire. Mais il ne savait pas qu'il était grondé, car, comme Yang portait un masque, il ne voyait que les yeux de l'institutrice et ne pouvait pas voir son visage en colère. Les élèves plus âgés ont aussi un problème de communication. Hyun-ji est une lycéenne qui habite à Séoul. Elle n'est pas habituée aux cours en présentiel. En suivant les leçons qui se déroulaient en ligne à travers un service de visioconférence, elle s'est habituée à ne pas poser de questions aux professeurs et à ne pas partager ses expériences avec les autres. Elle a alors du mal à changer cette attitude dans les cours en face à face. Ainsi, les élèves sont tellement habitués aux cours en ligne que lorsque ces derniers se déroulent en classe, la communication est plutôt unilatérale. Par ailleurs, ils ont du mal à faire des activités en groupe. D'après un professeur, assis face à face, les élèves discutent au moyen d'une application de messagerie mobile instantanée au lieu de parler directement. Les étudiants rencontrent également des difficultés dans les relations avec leurs camarades. Depuis la crise sanitaire, les occasions permettant de se rassembler et de faire des activités ensemble ont disparu. À cause de la limitation du nombre de personnes réunies, les clubs universitaires ont dû organiser des réunions sur Internet. Les événements qui permettent aux nouveaux élèves de se familiariser ont été annulés ou se sont tenus en ligne. Les spécialistes indiquent qu'il est temps de concentrer les efforts nécessaires pour que les élèves puissent retrouver leur sociabilité. Selon eux, la pandémie a obligé à faire appel aux cours en ligne sans contact, mais cela a permis de franchir la limite spatiale. Il est donc nécessaire de trouver le meilleur modèle éducatif en combinant diverses méthodes. Suite à la levée des règles de distanciation sociale, les gens commencent à sortir de chez eux. Après 2 années de confinement à domicile causé par le Covid-19, ils se réjouissent d'avoir retrouvé la liberté de s'amuser dehors. Or, pour certains, cette libération n'est pas forcément une bonne nouvelle. Ce sont les plateformes de livraison de plats cuisinés qui voient le nombre de commandes chuter. Selon une entreprise d'analyse de mégadonnées, du 18 avril, le jour où le gouvernement sud-coréen a supprimé les règles sanitaires, jusqu'au 21 avril, le nombre d'utilisateurs des 3 principales plateformes de livraison de plats, à savoir Baemin, Yogiyo et Coupon Eats, était de 18,5 millions. Il s'agit d'une baisse de 21% par rapport au mois précédent. Seul le leader du secteur, Baemin, maintient le même niveau. Cependant, ce mois-ci, il rencontre lui aussi des difficultés. Kim est un salarié qui a travaillé à temps partiel comme livreur de plats cuisinés. Comme il habite dans le quartier branché étudiant de Hongdae à Séoul, il faisait des livraisons le soir en rentrant chez lui après le travail au bureau. Dernièrement, le nombre de ces livraisons a considérablement diminué. Voyant les restaurants remplis de monde, il suppose que ceux qui se faisaient livrer des mets chez eux vont désormais manger au restaurant. Le secteur de la livraison de plats explique que cette baisse est inévitable, parce que les mois d'avril et de mai où il fait beau et doux sont normalement la basse saison. En général, la demande pour les livraisons est influencée par le temps. Quand il fait chaud ou froid, ou bien quand il pleut ou neige, elle a tendance à s'accroître. Ceci étant, au printemps et en automne, où les activités en extérieur se multiplient, les applications de livraison connaissent d'habitude une décrue des commandes. En effet, d'après une analyse des paiements par carte de crédit dans les restaurants et les bars, du 18 au 30 avril, le chiffre d'affaires des commerces axés sur les livraisons a chuté de 12%. En revanche, celui des enseignes centrées sur les clients qui mangent sur place a bondi de 27% par rapport à avant la levée des règles de distanciation sociale. À ce propos, un représentant du secteur se montre prudent. Selon lui, il est vrai que les demandes de livraison ont diminué, mais cette période de l'année est normalement une basse saison. Il est donc important d'observer jusqu'en été, où il y a de nombreuses commandes à cause de la chaleur, pour conclure si ce déclin est temporaire ou pas.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Pour cette édition de Séoul au jour le jour du jeudi 26 mai, vous êtes en compagnie d'Élodie Stanislas. Le centre de secours Il Ilgu de l'Agence nationale de lutte contre les incendies a récemment organisé la 12e édition du concours des chiens de sauvetage des sapeurs-pompiers au sein de son siège situé à Daegu. Parmi les chiens qui participent à cette compétition annuelle, celui qui obtient la meilleure évaluation gagne le titre de Top Dog. Cette année, 34 équipes des centres de secours du pays y ont pris part. Les chiens sauveteurs des sapeurs-pompiers sont des animaux hautement entraînés pour accomplir des missions spéciales. Ils disposent d'un odorat 10 000 fois plus développé que celui des humains et d'une ouïe 50 fois plus développée. Ils sont classés en 4 catégories selon le type de mission. Chiens de sauvetage en montagne, ceux en mer, chiens de recherche au secours des sinistrés et chiens détecteurs de cadavres. Lors d'une disparition dans la montagne ou d'un effondrement d'immeuble, les chiens secouristes sont capables de remplir leurs tâches, même dans une situation où il est difficile d'utiliser des équipements sophistiqués à cause de la dégradation de la météo, par exemple. Ce type de chien doit posséder plusieurs qualités, telles que la capacité d'affinité, les caractères adaptifs à l'environnement et la force physique. Toutes les races ne peuvent pas devenir des chiens secouristes. En Corée du Sud, les 5 plus utilisées sont les suivantes. Le berger allemand, le Labrador, le Malinois, le Border Collie et le Springer anglais, car ils sont adaptés à la configuration et au temps du pays. Il faut investir beaucoup de temps pour former des chiens de sauvetage. Il faut en moyenne 24 mois et cela coûte environ 50 000 euros par animal, sans compter le coût de la main-d'œuvre. Quand ces canidés travaillent sur les sites de catastrophe, ils forment toujours une équipe avec un secouriste appelé dresseur pour effectuer les recherches. Le partage d'émotions entre le chien et son dresseur est très important. C'est pourquoi le partenariat entre les deux est maintenu jusqu'à la retraite de l'animal. Les chiens de ce type doivent subir des formations régulières pour maintenir leur capacité. Après 5 ou 6 années de service sur place, ils prennent leur retraite à l'âge de 8 ou 9 ans. Puis, ils sont adoptés par des particuliers pour mener une vie comme un chien ordinaire. La caserne de pompiers de Wangju, dans la province de Gangwon, est la première à avoir utilisé en 1998 des chiens de sauvetage des sapeurs-pompiers au pays du matin clair. Depuis 2011, le centre de secours Ililgu de l'Agence nationale de lutte contre les incendies forme ce type d'animaux secouristes. Ces 5 dernières années, ils sont intervenus plus de 3000 fois dans divers sinistres pour sauver 184 personnes. À présent, 34 chiens des sapeurs-pompiers sont en service dans ces centres Ililgu ou 119, le numéro d'urgence en Corée du Sud. Selon l'Institut national des statistiques, en Corée du Sud, le nombre de mariages de l'an dernier était de 190 000. Il s'agit du niveau le plus bas depuis le début de l'établissement des statistiques en la matière en 1970. De 2016 à 2020, ce chiffre a dépassé 200 000, mais l'année suivante, il a reculé en raison de la diminution de la population et de la crise sanitaire. La baisse du nombre de mariages entraîne celle du nombre de naissances, puis la diminution de la population. C'est pourquoi les collectivités locales poursuivent des projets de soutien visant à encourager les citoyens à se marier et à s'installer dans leur région. Dans ce contexte, la municipalité de Buyo, dans la province de Chungcheong du Sud, accorde une subvention de mariage de 7 millions de won, soit 5 000 euros aux couples qui se marient. L'an dernier, le nombre de mariages de cette ville a régressé de 44% par rapport à 2015. La municipalité espère que ce soutien financier contribuera à créer de meilleures conditions pour le mariage et aidera les nouveaux époux à s'installer dans la région. Les bénéficiaires de cette aide sont des couples âgés de 18 à 49 ans qui sont enregistrés comme résidents de la ville et qui ont déclaré le mariage à la mairie. Si seulement l'un des époux est un résident de la ville, l'autre doit déclarer le changement de domicile dans un délai de 30 jours après la déclaration de son union. Ceux qui se remarient peuvent également en bénéficier, mais pas les couples divorcés qui se remettent ensemble, bien évidemment. Les familles multiculturelles peuvent aussi profiter de ce soutien après l'obtention de la nationalité sud-coréenne et l'enregistrement de domicile dans la ville. La subvention est versée en monnaie locale en 3 étapes. Premièrement, les bénéficiaires perçoivent 2 millions de won un an après la déclaration de mariage. Deuxièmement, ils reçoivent la même somme un an après le dépôt de demande de soutien financier. Et enfin, 3 millions deux ans après le dépôt de demande. Dans la province de Chungcheong du Sud, Buyo n'est pas la seule ville a lancé ce type de projet d'aide financière. Chungnyang mène également un programme similaire. Depuis 2018, la municipalité de cette ville attribue une subvention de 5 millions de won, soit 3 700 euros, aux nouveaux mariés. Néanmoins, sa population ne cesse de diminuer, passant de 32 200 en 2018 à 30 400 personnes l'an dernier. Dans l'article précédent, nous venons de parler mariage. Maintenant, nous allons traiter le divorce. L'année dernière, en Corée du Sud, 190 000 couples se sont dit oui et 100 000 couples mariés ont divorcé. Dans cette situation, les chaînes de télévision diffusent des programmes qui ont pour sujet le divorce. Une chaîne a présenté une émission qui observe 4 couples et qui ont des problèmes conjugaux et réfléchissent à mettre un terme à leur relation. Elle montre en détail les conflits des couples et les présentateurs les regardent et en discutent. Une autre chaîne a lancé un programme similaire, mais il se différencie par la présence d'une psychiatre. Cela permet de traiter en profondeur les problèmes des couples et le risque de divorcer, et de leur donner aussi des conseils. Il y a également une émission qui montre des célébrités qui ont déjà divorcé. Dans ce programme, celles-ci et leur ex-mari ou ex-femme se retrouvent dans une maison et y habitent. Si les programmes sur le divorce se multiplient à la télévision, c'est parce que les émissions d'observation sont toujours populaires. Les producteurs cherchent donc de nouveaux sujets. Une autre raison réside dans le fait que le divorce n'est plus considéré comme tabou dans la société sud-coréenne. Selon un sociologue, les jeunes ont un point de vue plus libéral qu'au passé en matière de système social ou de coutume. Par ailleurs, comme ils ne se gênent pas pour dévoiler leur vie privée, ils commencent à révéler même les thèmes un peu plus secrets. À propos de ces émissions, certains estiment qu'elles ont un effet positif, comme par exemple montrer la possibilité d'établir une nouvelle relation entre les anciens époux ou partager des conseils et des solutions d'un expert. Cependant, d'autres soulignent qu'il faut se focaliser sur la solution des conflits et non pas sur les disputes ou les discordes entre les anciens couples. D'après eux, aujourd'hui les gens deviennent de plus en plus insensibles à l'expression de leurs émotions. Il est donc possible que ce type de programme risque d'aggraver cette tendance. Du coup, pour trouver un équilibre convenable, les producteurs devraient faire attention lors du montage et du choix des images filmées. Ainsi se termine notre émission Séoul au jour le jour du jeudi. C'était Elodie Stanislas au micro. Ko Jung-sun à la rédaction, avec Oh Ha-young à la réalisation. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous!